Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission présentée par Nathalie Croiset en partenariat avec Solidsoft.
Et donc c'est le grand dossier du Mondial du bâtiment. Tous les mois, nous organisons un débat autour des thématiques majeures pour vous, acteurs du bâtiment, de la construction et de l'architecture. Et cette question, ce mois-ci, accessibilité. Pourquoi le zéro ressaut en salle de bain impacte-t-il tout le bâtiment ? La douche zéro ressaut est désormais obligatoire dans le neuf. On parle du neuf, mais il y a aussi tout ce qui concerne la rénovation. On va rentrer en détail avec nos quatre intervenants. Hubert Maître, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Secrétaire général de l'AFISB, l'Association des industries de la salle de bain. Quelques mots pour vous présenter ?
Eh bien, l'association des fabricants présents sur le marché français, voilà, et la douche représente 40% de l'activité en valeur.
En valeur. Julien Séry est avec nous aussi, bonjour.
Bonjour.
Délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat et FFB, quelques mots là encore pour vous présenter.
Eh bien, le pôle Habitat de la FFB, c'est la branche maîtrise d'ouvrage professionnel de la Fédération française du bâtiment. Donc on représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers.
Et donc vous avez mis en place un guide dont vous allez nous parler évidemment, parce qu'on va comprendre que voilà, il y a un arrêté, il y a des décisions qui sont prises, mais c'est pas toujours simple à mettre en application. Donc on va voir ça concrètement, également avec Claire Le Kellec, bonjour.
Bonjour.
Présidente du Conseil français des architectes d'intérieur. Architecte d'intérieur avant tout, c'est ce que vous dites.
Oui, tout à fait.
Avant d'être président, quelques mots pour vous présenter.
Mais le CFAI, donc c'est le Conseil français des architectes d'intérieur qui représente 800 adhérents sur toute la France et puis qui est là pour valoriser et reconnaître les compétences des architectes d'intérieur en France.
Et puis nous avons un quatrième intervenant qui est en visio avec nous, André Hoogst, bonjour.
Oui, bonjour.
Vice-président du CEP SICAT, ingénieur IPF, expert en accessibilité. Quelques mots là encore pour vous présenter.
Oui, donc le CEP SICAT, c'est une association à but non lucratif qui œuvre dans le domaine du handicap et du vieillissement. Et effectivement, j'interviens en tant qu'expert principalement sur toutes les problématiques liées à l'adaptation des logements, notamment actuellement avec la FFB Julien Séry et la FISB sur les douches sans ressaut.
Alors, on va, avec vous, entrer dans le vif du sujet. Je parlais de zéro ressaut en salle de bain, donc de cette décision, on va dire, obligatoire maintenant à partir de 2021. Peut-être revenir un petit peu sur l'historique avec vous, les objectifs initiaux. On va dire que c'est dans une forme de continuité, c'était prévu.
Oui, alors il faut déjà rappeler que la loi est ancienne, loi de 2005, exécutée dès 2007, avec des arrêtés en 2006, le 24 décembre 2015 pour le logement, et le 11 septembre 2020. Il n'y a pas que le logement qui est touché, il faut le rappeler, il y a les ERP, établissements recevant du public, les IOP et les espaces publics. Donc c'était effectivement prévu. Dans les textes, dès 2007, on abordait la notion de la douche accessible sans ressaut dès lors où les conditions techniques et technologiques le permettraient. À partir de 2006, les arrêtés de 2006 ont tout simplement confirmé, et 2015, un ressaut autorisé d'environ 2 cm. Et l'arrêté 2011, donc de septembre, 2021, du 11 septembre 2021, précise le zéro ressaut, c'est-à-dire une douche au moins sur son accès principal complètement plane.
Je pense que vous voulez dire 2020, 11 septembre 2020, parce que 2021, on est en train d'anticiper, mais c'est pour 2021. Mais voilà. On commence à s'en mêler dans les années, tellement on est perturbé.
Oui, dans les années, avec l'effet Covid, on a un petit peu gardé de l'ancienneté ou de la nouveauté. Voilà, on veut dépasser très vite.
Alors, vous allez nous en dire un peu plus sur cet arrêté, justement, mais peut-être faire réagir quand même Hubert Maître d'abord à cette mise en place. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de frémissement, on va dire, au départ, quand même ?
Non, écoutez, c'est depuis 2005 que les fabricants ont pris le sujet à bras-le-corps. Et je dirais aussi avec joie, parce que l'innovation, une piste d'innovation pour rendre la douche plus ouverte, plus accessible, nous a intéressés dès le départ. Donc, on a vu les dimensions de receveurs exploser, les épaisseurs fondre jusqu'à 2 cm. On a aujourd'hui des receveurs en céramique de 3 cm qui mesurent 1,80 m de longueur par 80 cm de large. Vous imaginez les fours derrière. Donc, vraiment, il y a eu des révolutions. Il y a eu l'explosion de l'offre en matériaux de synthèse composite qui permet aussi des multitudes d'effets, d'aspects de surface. On a eu tout le travail sur la résistance à la glissance. Donc là, vraiment, on a pris le sujet à bras-le-corps. Alors, on l'a pris d'une façon façon aussi ce qui existe dans, en urbanisme et en architecture, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent « design for all », la conception pour tous. Mmh. Et donc c'était l'idée de la salle de bain, pas le handicap, les personnes à mobilité réduite, un jeune enfant, une personne blessée, un adulte, enfin, on le voit bien.
Une question de confort finalement aussi.
Oui, on le voit bien tous les jours, vous utilisez votre télécommande, eh bien la télécommande a été développée pour des handicapés au départ. Vous prenez les passages piétons avec le trottoir qui se baisse, c'est fait pour les handicapés qui d'ailleurs n'arrivent plus à l'utiliser puisque tout le monde le préfère. Donc c'est l'accessibilité pour tous et ça a été l'idée de la salle de bain. Les douches se sont agrandies, se sont ouvertes, moins d'obstacles avec les parois et donc un sentiment de bien-être avec la limite évidemment de la taille des salles de bain.
Alors évidemment on va rentrer un peu plus en détail, c'est le cas de dire, sur les produits. Continuez à vous faire réagir aussi Julien, en série aussi sur cet arrêté.
Bah, nous, je ne vais pas vous mentir, on a quand même été
un petit peu
grincé des dents, parce que bon, ça arrive dans un contexte en plus réglementaire, normatif, foisonnant. Alors, c'est plus des normes et des réglementations sur l'environnement dont on entend parler en ce moment. Donc là, c'est un défi supplémentaire à relever. Nous, en tant que promoteurs immobiliers et avec nos collègues bailleurs sociaux, on est bien évidemment parfaitement engagés dans l'accessibilité pour tous, dans le fait de rendre nos logements le plus accessible, mais aussi le plus pérenne dans le temps. On parle beaucoup du vieillissement dans son logement, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mais c'est vrai que là, sur le plan technique, et on va le voir dans le détail, il y a quand même pas mal de défis à relever. Je me permets juste de revenir sur l'entrée en vigueur, pour être précis. En fait, c'est une entrée en vigueur en deux temps, et c'est vrai que l'arrêté est paru le 11 septembre 2020, comme l'a dit Entrée, mais il y a une application en deux temps, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier de cette année 2021, ce ressaut zéro est obligatoire pour les rez-de-chaussée.
Sont
visés les logements collectifs et les maisons pour un particulier qui ne construit pas pour son propre usage. Donc si vous voulez construire votre maison et que vous louez, vous êtes soumis à la réglementation accessibilité. Donc depuis le 1er janvier, si vous faites une douche en rez-de-chaussée, vous y êtes soumis. Et la généralisation, c'est-à-dire à tous les étages desservis par un ascenseur, elle va arriver au 1er juillet, donc dans quelques jours. C'est la date de permis de construire qui fait foi. Donc dès que vous allez déposer un permis de construire à partir du mois prochain, vous devrez respecter cet arrêté.
Alors on allait rentrer évidemment aussi en détail avec André Aux, mais c'est bien que vous commenciez à le préciser. Peut-être Claire Lequellec aussi à réagir globalement, on va dire.
Ma réaction, elle sera sur le coût que ça va engendrer finalement dans la construction, c'est-à-dire que il va falloir gérer ce zéro ressaut avec tout ce qui est en dessous, par exemple le chauffage. S'il y a un chauffage au sol
oui.
D'autant que maintenant le chauffage collectif doit être électrique dans la majeure partie des cas.
Ouais, donc c'est une problématique, on va en parler évidemment aussi du coût plus globalement. Allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec vous André Aux. On a commencé à détailler avec Julien Séry comment ça allait se passer en deux temps, 1er janvier, 1er juillet 2021. Alors est-ce qu'il est assez précis cet arrêté André Aux?
Alors, je dois dire que quand on l'a vu paraître, on s'est dit, bon, c'est relativement facile à comprendre. Et puis, en fin de compte, il faut un peu aller dans le détail des lignes et dans le détail de la compréhension. Alors, on s'est un petit peu inquiété au départ, et puis on a essayé d'exploiter, de se faire confirmer par la DHUP, Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Patrimoine, par la Direction ministérielle à l'accessibilité. Et dans quelques jours, on va avoir une réunion avec les organismes de contrôle pour qu'on essaye d'avoir une symbiose de compréhension. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la nouveauté, c'est qu'on ne rentre plus par le petit côté de la douche, mais on va rentrer par son grand côté, c'est-à-dire l'espace le plus large qui est 1,20 m. Une douche projetée au sol doit faire 90 par 120. On a eu évidemment des discussions. Les 90-120, est-ce que c'est carrelage terminé ou carrelage à poser? A priori, c'est carrelage terminé, donc Hubert va rebondir en disant « mais on n'a pas de bac à douche de 122 de large ». Voilà. Et c'est vrai, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Donc, dans la technique, c'est simple, on rentre sans ressaut, sans marche, et on n'a ni ressaut interne, ni ressaut externe. Donc, aucune gêne au franchissement, aucun obstacle au pied, parce que je rappelle qu'il y a à peu près 9% de personnes handicapées en France, mais 20% de la population de plus de 65 ans est considéré comme handicapé. Ce qui veut dire qu'on a quand même un handicap lié à l'âge qui est conséquent, et l'ensemble de ces textes sont faits évidemment pour les personnes handicapées en fauteuil, mais aussi pour pouvoir bien vivre et bien vieillir chez soi.
Oui, et ça, on va en parler aussi. Ça, c'est l'autre aspect aussi, quelque part aussi. Il y a des enjeux de rénovation. Voilà. Certaines personnes âgées qui décident de changer aussi, de modifier leur salle de bain pour se faciliter la vie.
Alors l'arrêté nous dit une chose, nous dit qu'il n'est pas interdit aujourd'hui, on parle de logement évolutif, et un logement évolutif c'est un logement qui passerait d'une baignoire à une douche ultérieurement. Donc ce qu'on a essayé de comprendre aussi, c'est quels seraient les dangers et les obligations des promoteurs, des constructeurs d'avertir leurs futurs propriétaires de logements de comment va se faire cette modification de réversibilité. La douche installée dès l'origine, c'était une des grosses questions du décret, trouver les problématiques de plancher, donc la FFB s'est entouré de toutes les compétences de tous les métiers. On est en table ronde régulière et on interpelle les fabricants, les poseurs pour savoir quelles sont pour eux leur vision du texte et surtout leurs problématiques. À partir de là, on va devoir évidemment revivre différemment le logement. Je rappelle qu'il y a toujours la douche, donc on va passer de la salle de bain à la salle d'eau. On va tomber sur un espace de douche 90/120. La zone d'usage, qui est la zone qui permettrait de se transférer d'un fauteuil roulant vers le siège, fait 80/130, ça n'a pas changé. Et on doit y rajouter l'espace de manœuvre de 1m50, qui, nouveauté, comme la douche n'a plus d'obstacle au niveau de sa douche, peut se superposer à la surface de la douche. Donc, en clair, une salle de bain, c'est environ 70 de baignoire à 80 plus 1m50 de diamètre selon la législation actuelle pour le fauteuil. Une salle d'eau, c'est 90 de largeur plus 1m50, superposable. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir une salle d'eau aujourd'hui à environ 1m70 de large. Donc, gain d'espace tout en gardant du confort.
Alors, on va rentrer en détail, évidemment, sur les applications et comment on peut s'y prendre. Peut-être juste aussi une précision. Pour le moment, les maisons individuelles à usage personnel ne sont pas concernées. Hein. C'est du locatif, voilà. Des logements locatifs en rez-de-chaussée dont parlait Julien Seri dans un premier temps. Et puis là, on arrive aux logements collectifs en étage qui sont desservis par un ascenseur.
C'est ça. Alors, ce qui est surtout important à savoir, c'est l'usage personnalisé, c'est-à-dire lors du dépôt de permis. Et là, toute la chaîne du cadre bâti est engagé, l'architecte, les bureaux d'études et autres, dans cette définition de la douche sans ressaut et dans sa méthodologie constructive. Et dans le permis de construire d'une maison individuelle, on va avoir pour son propre usage la signature ou pour un autre usage. Même prêter la maison à ses parents ou à quelqu'un de ses enfants, elle devient accessible et utilisable pour tous.
Alors, on va voir ça concrètement. Mais d'abord, je voulais mettre en avant une étude que fait Batimat régulièrement. On pose des questions et là, la question a été posée autour du zéro ressaut. Je pense que va vous faire réagir auprès des metteurs en œuvre. Elle a été réalisée en mai. Donc, la première question, c'est, et je pense que ce débat est important, puisque c'est, savez-vous que la douche à zéro ressaut fait l'objet d'une obligation réglementaire depuis le 1er janvier? Ils sont seulement 36,8% à dire oui. Et 63,2 à dire non. Vous voyez, il y a besoin d'informations, donc il va falloir diffuser le replay. Deuxième question, pensez-vous que cette obligation peut vous permettre de vous développer? Ils sont 15,8% à dire oui. Vous voyez, ça ne fait pas un chiffre très important. 44 à dire non et quand même 40% qui ne savent pas. Finalement, c'est assez perturbant. Et enfin, la dernière question qui va permettre, vous allez pouvoir réagir aussi, qui va permettre d'aller un peu plus sur l'offre aussi, quelles sont les conséquences aussi en termes de produits. La dernière question concerne l'offre des fournisseurs pour faire du zéro ressaut. Et selon certains, elle est suffisante à 9,8%, insuffisante à 25,6%. Et il y en a près de 65% qui ne savent pas. Là encore. Ouais. Donc, vous voyez, il y a vraiment besoin d'informer. Qui veut réagir? Oui, André Hoax veut réagir, j'entends.
Je veux bien réagir à la question concernant la connaissance. Vous savez, ça fait, on est en 2021 et la loi est de 2005. Aujourd'hui, on est encore toutes les semaines quasiment avec la FFB dans des formations, les pros de l'accessibilité ou autres. Et on essaye de mettre tous les corps de métier dans cette action. Donc, il y a encore du travail, même 15 ans après, vous voyez, on est obligé de réexpliquer la loi régulièrement parce que les gens ont l'impression que la loi change tout le temps. Elle ne change pas, elle évolue, elle se complète. Concernant si ça va être porteur ou pas porteur, je crois qu'il faut qu'on travaille dans l'évolutivité, l'optimisation. Et aujourd'hui, on était plutôt dans des salles de bain qui devenaient des volumes très, très, très conséquents parce que mal compris dans la conception, alors qu'on va essayer d'accompagner avec tous les professionnels qui sont autour de la table vers une optimisation des espaces, vers des superpositions qui redonnent le confort. Et je parle surtout sur les petits appartements, studio T2, où ça va être important. Et puis, quant à la troisième question, on a eu une agréable surprise avec la FISB, c'est que nos fabricants sont prêts. sont prêts et réagissent très très vite. Le marché existait, peut-être pas avec toutes les questions qu'on peut leur poser aujourd'hui, mais là, la FISB va pouvoir répondre. Je crois que les fabricants sont réactifs, nous écoutent, nous accompagnent et on va arriver à des solutions très intéressantes.
Alors, je vais faire réagir Hubert Mette dans un instant, mais Julien Seri était prêt aussi à réagir à ce sondage. Ouais.
Tout comme André, en fait, ce qui est frappant, c'est la méconnaissance en fait, de cet arrêté qui est quand même assez impactant, et c'est pour ça qu'on en fait une émission d'ailleurs, qui est assez impactant au niveau construction, au niveau technique, au niveau entreprise. Et c'est vrai que c'est marrant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas au courant que cet arrêté va entrer en vigueur. Alors, on a un peu notre part de responsabilité en tant que syndicat, parce qu'on doit aussi informer nos différents membres de ce... On le fait, mais visiblement pas assez. Mais c'est marrant de voir cette méconnaissance. Et puis, un deuxième aspect aussi qu'André l'a effleuré un petit peu, c'est non seulement il y a la méconnaissance, mais il y a aussi des interprétations différentes. Et ça, on peut le regretter, c'est que quand on lit l'arrêté, vous demandez à deux personnes qui, pour le coup, le connaissent, cet arrêté, vous demandez à deux personnes différentes, parfois vous aurez des interprétations différentes.
Oui, c'est pour ça que je demandais s'il était si précis que ça, c'est pas si simple que ça, c'est ça ?
C'est pas si simple que ça, et je pense qu'on va voir avec le guide qu'on fait, en tout cas on le vit au jour le jour, quand on écrit ce guide, que les interprétations effectivement sont pas si simples.
Claire Lequelec, ça vous surprend comme ça, ce manque de connaissances, finalement cette méconnaissance ?
Non, parce que si on ne travaille pas directement dans le vif du sujet, on n'est pas à jour, on n'est pas mis à jour régulièrement. Enfin, voilà, il faudrait une veille permanente pour avoir ce genre d'informations. Et il y a peut-être des manques à ce niveau-là.
Il manque à ce niveau-là. Alors, Hubert Mette, si vous voulez réagir aussi à ce sondage, et puis nous dire, vous, justement, parce qu'il y a quand même, on parle de l'offre fournisseur à la fin, ce qu'on peut avoir aussi, quelles conséquences en termes de produits. Les produits sont là ?
Oui, alors juste revenir deux secondes. L'arrêté, c'est le point de départ de tout. C'est pas l'arrivée, c'est le point de départ de tout. Alors on a quand même été un tout petit peu surpris sur. On était au courant des discussions, on n'a pas forcément été approché nous en tant que fabricants très près, et donc on a été surpris puisqu'il y avait débat autour de la table entre toutes les associations de handicapés et tout ça. Donc on savait qu'il y avait des choses, mais on n'était pas tout à fait sûr. Et puis on est pris entre plusieurs feux. Et là, je ne surprendrai pas les gens du bâtiment, il y a quelques conflits dans les réglementations auxquels nous n'échappons pas. Et en 2018-2019, nous avions des chantiers refusés pour absence de ressauts intérieurs sur les receveurs. Donc, on a été assez traumatisés avec ça, puisqu'il a fallu déshabiller entièrement des chantiers. Donc, il y avait une discussion sur la norme électrique, et donc, on a résolu ce problème, mais à peine. On parle de 2019, l'année 2020, vous la connaissez. On arrive fin 2020 et on nous dit il n'y a plus de ressauts du tout. Donc on espère que les consoles électriques vont suivre. Mais c'est des éléments importants. Donc oui, on est prêt, sauf que le dernier kilomètre, c'est le plus difficile. On n'a pas tous les éléments. Alors André a évoqué l'espace fini, la douche. J'espère qu'on ne va pas être les seuls fabricants, le seul pays au monde à fabriquer des receveurs de 122,5 cm. Il va falloir qu'on retrouve raison.
122,25.
Pour tenir compte de l'épaisseur des carreaux, alors qu'on n'a pas besoin, de cette, de ces 2 cm pour l'espace de manœuvre d'une chaise roulante.
Si je comprends bien, vous devez quand même vous adapter à ce qui est dans cet arrêté. Il y a besoin de fabriquer quelque chose de nouveau ou des choses nouvelles ?
Mais l'arrêté ne dit pas grand-chose.
D'accord.
C'est le point de départ à des travaux. C'est ce qu'on fait avec Julien Seri et André Hoogst. On participe à un groupe de travail pour voir comment on décline cet arrêté. Parce que tout reste à faire. Alors, du côté des fabricants, on a les produits. Il faut qu'on ajuste notre offre commerciale. Et il ne faut pas oublier que le prix cible visé par nos amis promoteurs n'est sans doute pas le même. Pour vous dire, on a des receveurs, on sait mettre une nappe d'étanchéité autour, mais il y a un coût supplémentaire. Il n'est pas sûr que tous les acteurs du bâtiment nous suivent dans cette voie. Donc voilà, oui, on est prêt, mais le dernier kilomètre reste à déterminer. On a des receveurs qui font 2 cm d'épaisseur. Il n'y a plus de ressaut, il n'y a plus rien. On peut l'encastrer, on a le choix du matériau. Voilà.
Alors justement, groupe de travail, je me tourne vers Julien Seri. Justement, vous disiez, vous travaillez ensemble, vous avez choisi aussi de rassembler tous les corps de métier, c'est ça, dans ce groupe de travail. L'idée, c'est de travailler ensemble.
En fait, on essaye, puisque ces travaux sont en cours, de solliciter et de demander l'avis de tous les gens concernés par ce nouvel arrêté. On se rend compte, André, combien on arrive à combien de personnes ? Peut-être 25, 30 corps d'État, entreprises, contrôleurs techniques, fabricants. architecte. Voilà, promoteur bien évidemment. Et donc, bon, bah, chacun a sa contrainte, chacun a sa règle, a sa norme. Et bah, comme le disait Hubert, quand on superpose ou quand on juxtapose, on se rend compte que bah, tout n'est pas compatible, qu'il y a des questions qui vont se poser sur les chantiers. Et ce guide, il est là pour essayer au mieux d'y répondre.
Alors, ce guide, il est composé de quoi? En fait, on voit déjà ce qui est acquis, il y a peut-être certains points de vigilance, c'est ça? Et puis peut-être aussi encore, d'après ce que je comprends, des questions qui sont en suspens, parce que tout n'est pas clair.
En fait, l'enjeu de ce guide, bon, c'est déjà de résumer ou d'expliquer l'arrêté. Parce que, comme l'a dit André, il est sujet à interprétation. Les textes, bon, ils sont ce qu'ils sont, donc on va expliquer un petit peu comment il faut lire cet arrêté, comment il faut l'interpréter au niveau conception, parce que finalement, le premier enjeu, ça va être au niveau de la conception. La conception de la salle de bain où aujourd'hui on essaye quand même, nous en tant que promoteurs, d'optimiser les surfaces parce qu'on est quand même sur des emprises foncières et des projets de plus en plus contraints, donc on essaye d'optimiser les surfaces. Bon bah là, avec cette modification de l'espace de manœuvre par exemple qui peut se superposer sur l'espace de douche, bah, c'est déjà un premier changement de conception. Et puis après c'est de voir entre chaque corps des timbres les liaisons qu'il peut y avoir. Je prends un exemple qui me vient et Hubert en a un petit peu parlé, de la NFC 1500, de la norme électrique. Bon bah avec ce zéro ressaut, il y a une nouvelle application de cette NFC 1500 qui va entrer en vigueur et on pourra pas mettre les prises de courant comme on veut, comme avant, comme quand il y avait
un ressaut. J'imagine, parce que là si on est vraiment à plat, c'est beaucoup plus compliqué.
Ça, ce qui dépend aussi des parois
de
douche,
des problèmes de sécurité.
Sécurité électrique bien évidemment, qui est aussi vachement lié au positionnement et au type de parois de douche, ce qui a une incidence sur l'étanchéité de la salle de bain, ce qui a un incidence sur le type de carrelage qu'on va mettre en œuvre, sur la taille du receveur, enfin sur les dimensions du receveur. Et je le cite de tête, mais j'en oublie sûrement. Il y a beaucoup de normes et de DTU, de réglementations qui viennent se superposer. Et on a un gros sujet acoustique aussi. On en parlait d'ailleurs juste avant l'émission. Donc voilà. Tout ça fait que on essaye de trouver le meilleur compromis pour donner à la fin. Aux promoteurs, à l'architecte, aux entreprises, enfin tous les intervenants, la bonne conception de la salle de bain avec ce ressaut zéro.
D'accord. Claire Le Quellec, peut-être en tant qu'architecte, vous, votre réaction à ce qui se met en place? Parce que moi, je m'interroge vraiment. Je dis, d'un côté, il y a un arrêté, puis on voit que vous construisez au fur et à mesure. Hein. C'est pas si simple que ça.
Pour nous, le zéro ressaut, en tant qu'architecte d'intérieur, et surtout dans la rénovation, c'est souvent une demande des clients que l'on ne peut pas forcément apporter parce que pour la raison suivante, c'est que nous sommes à Paris, du moins en milieu citadin, vous êtes en appartement et vous ne pouvez pas tout simplement encastrer votre chiffon de sol, sinon vous allez voir votre voisin et vous lui demandez gentiment si vous pouvez percer un trou pour évacuer votre douche. Donc la plupart du temps, c'est pas réalisable. Donc c'est ce qu'on appelle les douches à l'italienne surélevées, où on a une petite marche, voilà, et ça permet d'avoir un receveur avec cette marche, mais les clients ont la sensation d'avoir
cette fameuse douche.
Comme un zéro ressaut. Ensuite, en maison, c'est encore différent parce qu'on peut avoir effectivement les vides sanitaires qui nous permettent de le faire. Mais dans la mesure où c'est possible, effectivement, on utilise des matériaux qui nous permettent justement de gagner de la place en épaisseur et de proposer des douches vraiment de plein pied, sans ressaut, avec zéro ressaut, si c'est possible.
Oui, parce qu'en fait, il y a une vraie demande. À peu près, les chiffres disent qu'il y a 6% des logements qui sont adaptés véritablement au vieillissement de la population, parce que c'est ça finalement qu'il y a derrière. Et que finalement, 9 Français sur 10 aimeraient pouvoir adapter leur logement en cas de difficulté physique, parce qu'on voit qu'on est en train de changer. J'allais dire, avant, à 65 ans, on se disait je pars en EHPAD. Maintenant, heureusement, la vie est beaucoup plus longue. Et puis, on espère dans des bonnes conditions et rester chez soi.
Oui, et puis c'est aussi l'évolution de la vie. C'est-à-dire que c'est effectivement une baignoire, c'est plus vendeur dans un appartement parce qu'on se projette avec ses enfants, le bain. Sauf que les enfants grandissent et qu'à un moment donné, les enfants, eux aussi préfèrent la douche. Ça consomme plus aussi une baignoire. Oui. Donc par rapport à tout ce qui nous entoure aujourd'hui au niveau écologie. on vient très vite, on en revient très vite justement à la douche pour optimiser les espaces, pour pouvoir aussi intégrer des mini buanderies au sein des salles de bain. Et les gens ont besoin de ce confort, préfèrent avoir avec une douche de tête, avec plusieurs jets. Enfin, vous voyez, avoir ce confort-là que la baignoire n'apporte pas forcément, si ce n'est la balnéo. Mais c'est pareil, c'est des coûts qui sont différents. Donc, on s'adapte. C'est notre but en tant qu'architecte d'intérieur de répondre à la demande du maître d'ouvrage, de s'adapter et pour qu'ils puissent évoluer tranquillement dans leur espace de vie.
Alors, vous avez fait le lien, vous avez reparlé à nouveau de coûts. Hein. Je pense que ça, c'est un point qui est important. Je ne sais pas, j'ai vu circuler des chiffres. On parle d'un surcoût par logement à 4000 euros. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que ce sont des chiffres,
C'est très proche des calculs qu'on a fait, nous. Hein. Je ne sais pas, chez vous.
Donc, j'ai trouvé les bons chiffres. Oui, donc il y a quand même cette question de coût, parce que c'est pareil. Vous dites, vous avez les produits, mais à quel prix, Hubert, maître?
Ah ben, les fabricants sauront s'adapter. Hein. On a une offre de prix pour tous les appareils sanitaires à tous les niveaux de prix. Ça, c'est pas un souci. En revanche, si on doit intégrer des préoccupations qui ne dépendaient pas des receveurs, hein, puisqu'on parle d'eux, bon, les nappes d'étanchéité, c'était avec les carreleurs auparavant. Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne contact et peut-être qu'on offre des produits avec cette nappe d'étanchéité qui est solidaire des receveurs, ce qui existe déjà en Allemagne avec succès. Hein. Il n'y a pas de sinistre lié à cette installation. En revanche, en ce qui concerne l'acoustique, hein, qui est coincée normalement entre la dalle et la chape, là, on ne peut que se tourner vers les professionnels et discuter avec eux. Mais nous n'avons pas la solution par nous-mêmes. Donc, des coûts induits, en tout cas, certainement.
Certainement. Julien Serré aussi sur cette question de coûts.
Oui. Alors, nous, forcément, en tant que maître d'ouvrage, on est très attachés, enfin, et très regardants sur ces notions de coûts. Qui plus est en ce moment avec les conditions d'octroi de prêt, les conditions financières qu'ont nos clients. Donc c'est effectivement ces 4000 euros, c'est un vrai budget hein, sur un appartement. Donc il va falloir, là aussi, hein, je pense que c'est une courbe d'apprentissage à avoir. Ce sera peut-être 4000 au début, un peu moins à la fin. Là où on est peut-être, nous, un peu plus inquiets, c'est pas forcément sur le coût à l'investissement, c'est le risque de sinistralité derrière. Parce que je prends un exemple peut-être un peu, entre guillemets, extrême. Mais aujourd'hui, avec la RE 2020, on nous incite beaucoup à faire, notamment du chauffage électrique, mais aussi de mettre du biosourcé, c'est-à-dire de mettre des planchers bois. Bon, expliquez-moi comment, avec un plancher bois, vous mettez cette douche sans ressaut, sans risque de dégâts des eaux à un moment donné. Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose à quoi on va être confronté. On a eu beaucoup de discussions avec notamment l'agence qualité construction, avec nos assureurs qui nous ont effectivement
un peu alertés
là-dessus.
Oui, parce que les assureurs, il y a des chiffres qui montrent hein, qu'apparemment, il y a plus de sinistres ces derniers temps. Bon, ça n'a pas augmenté, ce n'est pas des proportions énormes. Hein. Globalement, chacun fait bien son travail, mais ça peut se produire. Et donc déjà, il y a une hausse de cette sinistralité et ça pourrait avoir ces conséquences-là.
Bien sûr, la principale crainte, elle est là. Même plus que, pour une fois, plus que le surcoût, la crainte, c'est vraiment le risque de sinistralité. Bon, encore une fois, on en revient au guide, mais c'est pour ça qu'on le sort aussi. Hein. C'est parce qu'on a un gros travail, nous, avec nos entreprises à mener, avec les contrôleurs techniques aussi, pour limiter le risque de sinistralité, parce qu'on va être sur éventuellement une massification de ce type de technique, de technologie. Et forcément, quand il y a un marché comme ça qui se développe, un des risques, c'est qu'il soit mal maîtrisé.
Un commentaire, André Hoxt, qui nous suit toujours.
Je crois que le surcoût, il est plus lié au fait du passage de la baignoire à la douche. Parce qu'effectivement, la baignoire est une solution aujourd'hui de simplicité sur le plan de la réalisation, sur le plan de l'étanchéité. Passer à la douche plate, déjà avec ressaut, c'était un peu plus cher. Et passer à la douche plate, ça va être encore un peu plus cher. Mais... sachant qu'on va optimiser des espaces, gagner de la surface, on pourrait dire soit on ferme des appartements plus petits, donc moins cher, soit on transfère l'espace et on récupérera l'argent. Et je crois que les fabricants, on est une agréable surprise, c'est que ils ont déjà la réponse sur des prix économiquement intéressants. Moi, quand j'ai démarré dans l'accessibilité il y a 30 ans, le bac à douche de plat, il était quasiment impossible à acheter. C'était quelque chose qui était un prix, c'était encore en francs et c'était impossible. Trouver un bac de 1 mètre par 1 mètre dans les années 2000, c'est pas aussi loin que ça, c'était impossible. Des sociétés avec qui je travaillais cassaient plus de 50 bacs pour en poser un. Donc voilà, c'est la technologie, c'est l'évolution. On va sur Mars, on doit bien savoir à un moment ou à un autre changer notre regard et poser une douche sans ressaut.
Voilà, ça doit pouvoir être possible. Et vous, en tant qu'architecte, Claire Lequellec, vous avez finalement une réflexion plus globale sur les sujets qui concernent aussi la salle de bain, d'ergonomie. Finalement, c'est ça qu'il y a derrière tout ça.
Pour nous, c'est au cœur de notre métier. L'ergonomie, elle n'est pas que dans la salle de bain, elle est dans... dans l'entièreté du logement, en termes de circulation, en termes de gestes du quotidien. Donc c'est pour nous, c'est un ensemble, l'ergonomie. Et effectivement, la salle de bain étant un espace par défaut plus petit, il se doit d'être pratique.
Mais est-ce qu'on peut imaginer, justement, après une réflexion globale, on se dit, on n'a peut-être pas la salle de bain idéale, mais si globalement, voilà, notre logement est adapté, finalement, à ce que l'on veut vivre?
En termes de longévité.
De longévité, exactement.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le souhait de beaucoup de maîtres d'ouvrage de se projeter à long terme dans leur logement et et que l'on puisse pourvoir, nous, à cette adaptabilité dans le temps. C'est-à-dire que il y a encore peu de temps, on mettait des fauteuils pliables dans les douches. Aujourd'hui, si on met un petit banc pour s'y asseoir, c'est tout aussi agréable et tout aussi esthétique. Et ça vaut, je vous dis, ça vaut pour toutes les pièces de la maison.
Julien Séry,
il y a une notion importante là pour faire écho à ce que dit Madame Lequelec, c'est la notion de logement évolutif qui a été introduite par la loi Elan, là aussi après de grandes discussions, mais qui aujourd'hui peut-être pas forcément très connue, pas forcément très maîtrisée, mais qui finalement s'inscrit un peu là-dedans. Il faut savoir que dans cet arrêté, on n'est pas obligé de faire une douche, on peut aussi mettre une baignoire, hein, bien évidemment, si tant est qu'elle soit justement adaptée au fait que par des travaux simples ensuite, on puisse transformer cette baignoire en espace de douche. À ressaut zéro, bien évidemment. Donc, le promoteur, en fait, nous, en tant que promoteur, on doit s'engager à dire, vous voulez une baignoire, très bien, mais nous, on doit s'engager à ce que, par des travaux simples, c'est-à-dire sans toucher le gros œuf, sans déplacer le tableau électrique, vous puissiez ensuite accéder à une douche plus adaptée à vos besoins un peu plus tard. Et en ça, la notion de logement évolutif, elle est peut-être pas inintéressante.
Oui, donc elle est à souligner. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre un peu comment ça va se passer, là, dans la suite Ubermaître. Là, voilà, vous êtes en train de voir avec ce groupe de travail comment on peut appliquer concrètement cet arrêté.
On voit l'interaction entre les différents intervenants. C'est en cours, il y a des débats, il y a des points de vigilance, il y a des points d'inquiétude. L'espace douche fini, par exemple, il faut lever cette incertitude très rapidement. Et puis, l'étanchéité, je pense qu'il n'y aura pas de difficultés particulières, même si, évidemment, il y a un vrai souci derrière et il est justifié, notamment dans le temps. Il ne faut jamais oublier que les salles de bain se font, mais elles se renouvellent aussi. Quand vous prenez une nouvelle acquisition, vous voyez qu'il y a des occupants qui commencent déjà par casser l'existant, et pas seulement dans la salle de bain. Et donc, il faut penser à tous ces éléments. Donc là, on échange et ce sont des réunions, je dirais, un peu avec un effet ping-pong. Ce qui nous fait peur, c'est le 1er juillet, parce que maintenant, on parle de 3 semaines.
Oui, parce que le 1er juillet, c'est là, c'est demain.
On parle de 3 semaines. On nous demande si on est prêt. Oui, on est prêt, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'on nous demande. Tout le monde est dans les starting blocks, on nous pose des questions, nos forces de vente de la prescription qui vont voir les architectes sont interrogées au quotidien. Donc, on avance.
C'est un peu ubuesque votre histoire quand je regarde ça à l'extérieur. C'est un peu surprenant.
Parce que souvent, on fait des réunions techniques avant de faire des arrêtés. Et là, on a choisi la méthode un petit peu contraire. C'est-à-dire, c'est une décision politique auquel on adhère. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on a vraiment participé historiquement au mouvement de l'accessibilité dans la salle de bain. Donc, il n'y a aucune difficulté. Simplement, à un moment donné, il faut bien se mettre autour de la table pour savoir comment on fait, comment continue-t-on l'acoustique. On ne veut pas revenir à des niveaux d'acoustique d'avant. Et puis, il ne faudrait pas non plus.
Vous attendez des aménagements ou pas, finalement? Non? Parce que finalement, le texte n'a pas l'air. Vous me dites que ce n'est pas si précis que ça. Vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent s'aménager? Il y a un dialogue possible avec l'État?
Le dialogue a eu lieu. Ouais. La discussion a eu lieu. Je vois mal l'arrêté être modifié aujourd'hui.
Non, mais c'est... Donc c'est plutôt à vous de vous adapter. Quoi,
c'est à nous de nous adapter. Vous disiez que c'était ubuesque, mais finalement, c'est assez commun comme situation. Et puis d'ailleurs, en plus, on parle du 1er juillet, mais finalement, ce sont les permis de construire déposés à compter du 1er juillet. Donc des projets déjà engagés au niveau conception qu'il faudrait normalement déjà adapter. Mais c'est pas là, c'est la réglementation qui trouve une application un petit peu rapide par rapport à ce que le terrain peut absorber. On parle beaucoup de l'ARE 2020 en ce moment. L'ARE 2020, c'est dans 6 mois. C'est-à-dire que
Elle va avoir lieu en 2022.
L'ARE 2020 en 2022, effectivement.
C'est un feu d'artifice, mais en même temps. Nathalie, quand même, une réaction, c'est que devant ces incertitudes, il faudrait pas qu'on se tourne vers des solutions de type EHPAD. On en, on entend oui. des petites musiques comme ça, sur des sols souples, soudés. Prenons le meilleur de l'EHPAD, l'accessibilité pour tous, pas le moins bon.
Alors, André Haux, ça peut peut-être avoir une réaction aussi.
Un mot que j'adore citer, c'est « agréable à voir et agréable à vivre ». Donc, ne rentrons pas effectivement dans la salle de bain, enfin la salle d'eau unique pour tous, avec juste 4 sens de configuration. Il faut rester inventif, et là, je dis que l'architecte est là pour, par l'art, nous amener de l'évolutivité. Et puis, les fabricants sont là pour réfléchir aussi à des nouveaux produits à améliorer, et ça va être avant tout des solutions technologiques pour l'usage. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on prône en termes de design for all depuis des années, l'usage de la personne, le respect de la personne. Et je rappelle toujours qu'une salle de bain qui se transforme en douche ultérieurement va coûter beaucoup plus cher que de la prévoir initialement. Et là, je tiens à ce que les professionnels, architectes, promoteurs et tout ça, n'hésitent pas à envoyer de leurs équipes en formation pour au moins appréhender non pas seulement la salle d'eau, mais la globalité de la compréhension de l'accessibilité dans le bâtiment, qui n'a pas été faite par hasard. Moi, j'ai démarré dès le début dans ces textes, et tout a été fait autour du corps humain. On a l'impression que ça a été fait autour de demandes de personnes, non. Ça rejoint extrêmement la composition de Léonard de Vinci et l'homme de Vétruve. Voilà, il y a vraiment une pensée globale. Toutes les dimensions, toutes les hauteurs d'atteinte s'expliquent par le corps humain.
Vous avez parlé d'architecte, jolie conclusion. Vous avez parlé d'architecte, peut-être le mot de la fin pour Claire Lequellec.
André était en train de parler, je pensais justement à l'homme de Vitruve qui reste au cœur de nos conceptions. C'est-à-dire que tout se mesure encore aujourd'hui de cette manière indirectement, même si on n'a pas été formé à l'homme de Vitruve. À cette époque-là, mais en tout cas, on l'utilise encore aujourd'hui, effectivement.
On l'utilise encore.
L'homme est mouvement.
Alors, ce guide-là de votre groupe de travail, on peut le trouver quelque part ? Parce que visiblement, il y a besoin d'informations, hein, ou c'est encore en élaboration ?
Il est encore en élaboration. Il est prévu pour septembre, là, pour la rentrée. On aura un peu de retard par rapport au 1er juillet. On va redoubler d'efforts, voire même plus, pour l'offrir aux professionnels le plus rapidement possible.
Voilà, pour qu'ils puissent être éclairés. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que vous voyez, c'était un sujet, il y avait vraiment besoin d'en parler, parce que ça me manquait encore vraiment d'informations en la matière. Merci à André Haux, qui était en visio avec nous, vice-président CEP SICAT, expert en accessibilité, à Claire Lequellec, présidente du Conseil français des architectes d'intérieur, avant tout, et vous avez bien exprimé votre métier, Julien Séry, délégué national aux affaires techniques du pôle Habitat FFB, et Hubert Maître, secrétaire général de l'AFISP, Association des industries de la salle de bain. Je pense qu'on pourra avoir tout ça en replay, donc se réinformer évidemment sur cette question du zéro ressaut. On va marquer une courte pause et puis on va continuer avec le sujet de la rénovation énergétique dans les territoires. Et ce mois-ci, c'est la Bretagne qui est à l'honneur.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission présentée par Nathalie Croiset en partenariat avec Solidsoft. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.